Vous êtes toujours à l'écoute de Radio France Internationale. Il est maintenant 19h30 ici à Paris, 18h30 en temps universel.
Afrique Soir sur RFI.
Et c'est avec vous, Zéphirin Quadio. Bonsoir.
Bonsoir Philippe Le Caplan, bonsoir à toutes et à tous. À la une en Côte d'Ivoire, la première convention du mouvement des générations capables, le parti de Simone Eyiwe, l'ex-épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo, désignée candidate de sa formation politique à la présidentielle d'octobre 2025. Et puis en Namibie, on attend ce soir les résultats des élections générales au dernier jour d'un scrutin prolongé dans quelques bureaux de vote à cause de défaillances ayant privé de nombreux électeurs de déposer leur bulletin mercredi dernier. Et puis réaction ce soir de l'opposant tchadien Max Kemkoy à l'annonce par le Tchad de la fin de ses accords de coopération militaire avec Paris. Une décision motivée selon lui par un besoin de confiscation du pouvoir par le président Mahamat Idriss Déby. Oui, en Côte d'Ivoire, Simone Eyiwe officiellement candidate à l'élection présidentielle d'octobre 2025. L'ex-épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo a été investie cet après-midi par son parti, le Mouvement des Générations Capables. Cela s'est passé à Mossou, le village natal de l'ancienne première dame, Benoît Almeras. Cette investiture était une formalité pour Simone Eyiwe qui s'exprime en ce moment.
Et oui, Zéphirin, parce que la présidente du MGC était la seule à briguer l'investiture de son parti créé il y a 2 ans. Après une cérémonie de plusieurs heures, l'ex-épouse de Laurent Gbagbo a reçu l'écharpe orange de candidate du MGC. Elle s'exprime actuellement, vous l'entendez peut-être être derrière moi, pour exposer ses priorités comme la réconciliation nationale, la transformation du pays ou encore la souveraineté ivoirienne. Des représentants d'autres partis de l'opposition, parmi eux le vice-président du PDC-IRDA, Noël Akossi-Banjo, ou encore l'ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blégoudé, lui-même inéligible, à noter l'absence de représentants du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo. L'un des enjeux du jour était donc de jauger le poids politique de Simone Eyiwe. Ces derniers mois, la première dame a notamment été porte-parole du collectif des partis d'opposition pour exiger, entre autres, plus de transparence dans l'organisation des élections ivoiriennes. Une chose à retenir ce soir, donc Zéphirin, un peu plus de 6 ans après son amnistie par l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara, Simone Eyiwe sera au rendez-vous de la présidentielle l'an prochain.
Merci Benoît Almeras en direct de Mossou avec quelques difficultés de liaison. Merci beaucoup Benoît. Politique encore, cette fois en Namibie où l'attente touche à sa fin après 3 jours de scrutin prolongé perturbé par des défaillances électroniques. Les premiers résultats partiels des élections générales sont sur le point d'être dévoilés. La clôture de cette prolongation est prévue ce soir à 21h heure locale, soit 20h heure de Paris, avec l'annonce des résultats provisoires dans la foulée selon la commission électorale. Un moment décisif pour ce pays, habituellement salué pour sa stabilité, mais aujourd'hui suspendu à l'issue d'un scrutin au résultat incertain. Christina Okello.
Toute la journée, des centaines d'électeurs ont fait la queue devant le seul bureau de vote de la capitale, Windhoek. Certains ont attendu jusqu'à 12 heures sous un soleil de plomb pour pouvoir déposer leur bulletin. Pourquoi un tel désordre? La commission électorale de Namibie pointe des problèmes logistiques, pénurie de bulletins de vote, surchauffe des tablettes électroniques servant à vérifier l'identité des électeurs. Pendant ce temps, les files d'attente s'allongeaient. Ce scrutin mobilise particulièrement les jeunes. Il représente 42% des 1,5 million d'électeurs inscrits et s'inquiète du chômage et des inégalités sociales. La bataille est serrée entre Netumbo Nandi-Daitwa, candidate du parti historique, la SWAPO, et Panduleni Itula, principal opposant. Les observateurs s'interrogent, la SWAPO va-t-elle résister à cette vague des jeunes électeurs, comme celle qui a déjà balayé des partis historiques dans la région, à commencer par la Botswana? Dans la presse locale, les couacs logistiques soulèvent des vives interrogations, nourrissant les soupçons de fraude avant même l'annonce des résultats.
Christine Okello, et ce soir le principal opposant Panduleni Itula affirme qu'il ne reconnaîtra pas le résultat, je cite, des élections marquées par des défaillances d'organisation ayant empêché de nombreux électeurs de voter. Politique encore, en République démocratique du Congo. Le débat sur une éventuelle révision de la Constitution de 2006 s'intensifie. L'Association congolaise de droit constitutionnel qui regroupe des personnalités comme Évariste Boshab, ancien président de l'Assemblée nationale, et Dieudonné Kalouba, ancien président de la Cour constitutionnelle, salue l'initiative du président Félix Tshisekedi. Le chef de l'État prévoit effectivement de convoquer une commission d'experts en 2025 pour éclairer le débat. Hier, dans leur déclaration, ces juristes ont affirmé qu'ils agiraient avec indépendance et objectivité, guidés uniquement par l'intérêt du peuple congolais. Le sujet divise la classe politique, l'opposition y voit une manœuvre politique. À Lubumbashi, le FCC, plateforme de Joseph Kabila, et Ensemble pour la République de Moïse Katumbi se sont opposés au projet. Les partis politiques de Matata Ponyo, de Martin Fayoulou et de Seth Kikuni se sont joints au FCC et ont publié ce samedi en fin de matinée une déclaration commune devant des centaines de militants. On en vient ensuite de l'annonce par le Tchad de la fin de ses accords de coopération militaire avec Paris. Annonce faite jeudi soir, quelques heures après le départ du chef de la diplomatie française en déplacement à N'Djamena. Son homologue tchadien Abderrahmane Koulamala a assuré qu'il ne s'agissait pas de remettre en question les relations, je cite, historiques entre les deux pays. Hier, la France a réagi en disant prendre acte de cette décision et d'ajouter qu'elle entendait poursuivre le dialogue. Je vous propose d'écouter la réaction de l'opposant tchadien Max Kemkoy, porte-parole du groupe de concertation des acteurs politiques et président de l'Union des démocrates pour le développement et le progrès.
C'est inattendu, dans la mesure où il n'y a pas un mois, à la lumière de ce que M. Jean-Marie Bockel a laissé entendre, que le gouvernement tchadien opte pour le maintien de la présence militaire française au Tchad. Mais qu'est-il arrivé? Parce que le pouvoir de Mohamed Idriss Déby Itno fait de la surenchère politique. Il voudrait profiter pour faire un peu monter les bretelles, pour obtenir d'eux d'abord la relecture et la modification de l'accord révisé du 5 septembre, de façon à protéger davantage son pouvoir après les législatives. Mais aujourd'hui, ce n'est ni une réponse aux besoins d'émancipation des peuples tchadiens, ce n'est ni aussi une question de souveraineté nationale. J'en veux pour preuve, les Américains ont leur base militaire en Allemagne. Est-ce que cela suppose que l'Allemagne n'est pas souveraine? Non, la question de souveraineté ne s'y pose pas. C'est une question absolument des besoins de confiscation du pouvoir. M. Mohamed Idriss Déby Itno fait de la surenchère politique pour obliger le gouvernement français de marcher dans ses ambitions à lui.
Propos recueillis par Nadia Ben Mafoud. Fin de l'étape éthiopienne du ministre français des Affaires étrangères ce samedi. Jean-Noël Barrot s'est envolé cet après-midi pour le Sénégal où il doit assister demain aux commémorations du massacre de Tiaroy. Avant de quitter Addis Abeba, il s'est rendu ce matin au musée national d'Éthiopie où sont exposés les ossements de Lucie, la plus célèbre australopithèque découverte il y a 50 ans par une équipe de paléontologues franco-américaines. Jean-Noël Barrot y a annoncé un nouveau partenariat culturel avec l'Éthiopie, une enveloppe de 7 millions d'euros pour préserver et valoriser les sites archéologiques du pays. À cette occasion, le ministre a également remis aux autorités éthiopiennes plusieurs pièces archéologiques faisant partie d'une collection de 3500 objets datant de 1 à 2 millions d'années. Ces objets avaient été envoyés en France pour y être étudiés 40 ans plus tard. Ils sont donc restitués à l'Éthiopie. Il ne s'agit pas d'une restitution, mais d'une remise, a précisé Laurent Serrano, conseiller à la coopération et action culturelle à l'ambassade de France.
Ce sont des artefacts qui ont été trouvés lors de fouilles qui ont été faites sur le site de Melkakounturé, qui est situé très proche de la capitale d'Addis Abeba, et qui a été notamment fouillé par un Français avec des équipes éthiopiennes et françaises. Et comme cela se faisait, un certain nombre d'objets ont été envoyés en France dans des laboratoires pour études, pour analyses, et ces objets aujourd'hui reviennent. Alors ce sont des objets lithiques pour l'essentiel. Vous avez un biface par exemple, qui sont stockés pour le moment à l'ambassade de France en sécurité et qui vont être remis aux autorités, à la Direction Générale du Patrimoine si vous voulez, mardi.
Le propos recueilli par Alexandra Branjon. Le Sénégal vient de remporter son troisième match de suite à la CAN féminine de handball. Les Lions se sont imposés face à l'Égypte 21-16 lors de la troisième journée. Des Lions qui affirment de plus en plus leur ambition, qui est d'aller le plus loin possible dans cette compétition, la toute dernière pour l'arrière droite Dongou Camara.
Ça a été un gros match de travail, on a vraiment travaillé, on a été mis dans de vraies conditions pour pouvoir nous évaluer. Les premiers matchs qu'on a eus, ça a été des équipes abordables pour nous en entame de compétition. Et l'Égypte, en tout cas, ils nous ont mis face à un bon exercice aujourd'hui et on a sur le relevé haut la main. Je pense que le retour du vestiaire, on s'est dit que c'était le moment pour pouvoir enterrer le match. Et c'est ce qu'on a fait, ça a été la consigne du coach de ne pas lâcher et ça a été respecté haut la main et la victoire est au bout. Il nous reste encore deux matchs contre l'Algérie et le Congo. C'est de bons adversaires.
Et dans ce même groupe A, le Congo-Brazzaville a battu l'Algérie 24-17 à l'écoute de RFI. Il est 19h40 ici, à Paris.